Bonjour à toutes et à tous. Nous avons rendez-vous cette semaine avec les élections en Israël. Nous avons rendez-vous aussi avec Frédéric Chillot. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheuse en histoire ici à Jérusalem. Vous êtes auteur de deux ouvrages, La politique française à l'égard d'Israël, paru en 2012 aux éditions André Versailles, ainsi que La guerre de Kippour n'aura pas lieu, de 2013, coécrit avec Marius Chatener, également aux éditions André Versailles. Alors nous sommes aujourd'hui au lendemain des élections qui ont attiré l'attention d'Israël et du monde. Quel est le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui ?
Il y avait une formule pour qualifier les élections israéliennes et les surprises qu'elles pouvaient recéler. Elle date de 1996. On se couche avec Shimon Peres et on se réveille avec Netanyahou. Puisqu'à l'époque, Shimon Peres était annoncé vainqueur le soir. Et le lendemain, Netanyahou est devenu Premier ministre, c'était d'ailleurs son premier mandat. Eh bien, hier soir, on s'est couché avec un gouvernement d'union nationale, ou du moins la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, puisque le Likoud et son principal opposant, la liste d'Herzog, étaient au coude à coude. Et ce matin, on s'est réveillé avec Netanyahou, qui va donc sans doute partir pour un quatrième mandat, puisqu'il a une très bonne assise électorale avec 30 mandats, et il sera sans doute amené à être choisi, bien sûr, par le président de l'État pour former un nouveau gouvernement.
Oui, c'est un peu le système. Donc c'est le président de l'État d'Israël qui appelle le parti qui a obtenu le plus de voix à former un gouvernement, à essayer de le faire. Parfois ça dure plus longtemps, parfois ça dure moins longtemps, et j'imagine que cette fois-ci ça va être assez court.
Je pense que là, les jeux sont faits parce que le Likoud a 30 mandats, ce qui est une base assez importante. C'est une très bonne surprise pour Netanyahou, c'est un bon score, alors que ces derniers jours, il était vraiment au coude à coude et le suspense était assez important. Il était crédité d'une vingtaine de voix, 24 maximum. Certains disaient même que peut-être ne passerait-il pas la barre des 20, les plus pessimistes au sein du Likoud. Là, vraiment, la surprise est énorme. Avec 30 mandats, il est bien parti pour former un nouveau gouvernement. Il a creusé l'écart par rapport à son principal concurrent, donc la liste d'Herzog. Et puis, il a siphonné les voix de droite. Parce que comment a-t-il réussi finalement ? Ce n'est pas en prenant des voix au centre, qui sont des opposants aujourd'hui importants, mais c'est en siphonnant les voix de droite, c'est-à-dire ses propres partenaires. Il a pris les voix du foyer juif, de Naftali Bennett, qui est son principal partenaire avec qui va faire la coalition. Bennett, qui peut s'estimer un peu sacrifié sur l'autel du vote utile, puisqu'il a uniquement 8 voix, il a perdu 8 mandats, pardon, il a perdu 4 mandats par rapport aux élections précédentes. Et puis il a pris également des voix sur l'extrême droite, puisque le parti des religieux s'était scindé en deux, et le mouvement Yahad ne figurera même pas dans la prochaine Knesset.
Oui, du parti de Lieberman aussi, qui obtient moins que la fois dernière.
Oui, alors Lieberman est tombé tout seul un petit peu, ouais. A chuté tout seul dans les sondages, mais évidemment, il en a pris également de Lieberman, qui était son ministre des Affaires étrangères, avec qui il avait, lors des dernières élections, monté une plateforme électorale. Et tous deux avaient réussi 31 mandats. Aujourd'hui, le Likoud, à lui seul, fait 30 mandats.
D'ailleurs, une sorte d'ironie d'histoire, ou quasiment une ironie d'histoire, en sachant que c'est Lieberman qui avait poussé ce qu'on rehausse le seuil pour obtenir le minimum de pourcentage pour accéder au mandat nécessaire. Je crois qu'on était passé de 2% à 3,25%.
Exactement.
Et c'est lui qui avait instauré ça, et il était quasiment sur le point de disparaître. Son parti était quasiment sur le point de disparaître, donc un peu victime de sa propre manœuvre.
Exactement. Oui, c'était une véritable manœuvre électorale de rehausser le seuil d'éligibilité à 3,25, ce qui correspond à peu près à 4 mandats, ce qui est beaucoup en Israël. Et dans quel but l'avait-il fait ? C'était en fait pour menacer les partis arabes. Or, Répondant à la manœuvre électorale de Lieberman, les partis arabes se sont organisés et pour la première fois, enfin une des rares fois, ont monté une coalition, une liste unie qui rassemble tous les partis arabes qui n'ont finalement d'autres qualités et points communs que d'être des Arabes israéliens, puisqu'on trouve à la fois des islamistes, des nationalistes, des communistes, marxistes. Bon, tout se retrouve dans cette liste unie. Et ils ont très bien répondu à Lieberman et finalement ont réussi également dans les urnes, puisqu'ils ont aujourd'hui à peu près 14 mandats. C'est une très belle réussite pour les Arabes israéliens en Israël. Et ils seront très bien représentés à la Knesset. Ça constitue une opposition importante aujourd'hui. Le seul problème, c'est que cette union n'était qu'une union électorale et que demain, les divisions qui faisaient jour dans cette union arabe eh bien, réapparaîtront et que les partis, à nouveau, se scindront.
Oui, mais en tout cas, ils seront sur les bancs de l'opposition, tout comme le parti travailliste qui formait donc le camp sioniste avec Tzipi Livni et avec Meretz aussi, donc Meretz qui est le parti donc sioniste le plus à gauche sur le panorama israélien, qui sera aussi sur les bancs de l'opposition. Une opposition qui fera face à une majorité de droite, clairement de droite, qui s'est dessinée donc après ce scrutin.
Puisqu'on parle de l'opposition, si demain Netanyahou monte comme il est attendu un gouvernement avec les partis d'extrême droite, le foyer juif, Israël Bétenou de Lieberman, qu'il a avec lui par exemple le Carlon, le parti Koulanou, qu'il mettra par exemple au ministère des Finances. Dans cette configuration-là, avec un gouvernement de droite assez extrême, voire d'extrême droite, eh bien pour l'opposition, ce sera assez confortable de critiquer un gouvernement pareil. Et dans ce cas, les divisions qui existent entre les travaillistes et le Meretz, qui ne s'entendent pas toujours si bien, parce que pour le Meretz, les travaillistes ne sont pas assez à gauche, ce ne sont pas des socialistes, ce sont vraiment des travaillistes libéraux d'un point de vue économique, etc., qui ont des positions sur le processus de paix, qui ne sont pas si éloignées que ça, que celles que tenait officiellement le Likoud. Donc toutes ces divisions-là seront aplanies pour monter une opposition forte. De même, les divisions entre les partis arabes, entre eux, et entre les partis arabes et les partis israéliens, juifs israéliens, donc sionistes, ce qui est pour certains partis arabes une hérésie de traiter avec eux, peut-être que cela aussi sera aplani. Donc, dans cette configuration-là, l'opposition, oui, est confortable. Pour ce qui est du gouvernement, du futur gouvernement mené par Netanyahou, il se présente comme ayant remporté un très grand succès, décidé à mener des réformes sociales. S'il s'attache en plus Carlon au ministère des Finances ou pour s'occuper des questions sociales, peut-être qu'il donnera des gages justement et qu'il répondra à certaines attentes de la population. En tout cas, il sera attendu, ça c'est certain, dans la communauté internationale. S'agissant du processus de paix, les dernières déclarations de Netanyahou sont surprenantes, parce qu'évidemment, il a annoncé qu'il ne serait jamais question sous son mandat d'un État palestinien. Alors c'est surprenant parce que ça rompt évidemment avec le discours de Bar-Ilan qu'il avait tenu en 2009, où il avait annoncé qu'il était en faveur de la solution deux peuples, deux États.
Mais c'était porteur d'espoir en quelque sorte.
Exactement, c'est ce qui avait permis aussi les négociations avec les Palestiniens. Les Américains étaient plutôt satisfaits de cette position. La surprise de ce discours, bon, qui est un discours qui était aussi une manœuvre, c'est-à-dire c'était annoncer tout d'un coup qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, que Jérusalem serait unique, éternel. C'est un discours qui est propre à satisfaire tous les électeurs de droite,
oui, qui puisait,
même au-delà.
Qui puisait là, son inspiration d'une sorte d'énergie du désespoir, d'ailleurs.
Oui. Mais finalement, est-ce que c'est si surprenant que ça? Je ne le pense pas. Benjamin Netanyahou avait-il vraiment l'intention de créer, de négocier en faveur d'un État palestinien? C'est pas certain. Il parle d'un contexte international et régional qui a changé. Il parle aujourd'hui de Daesh aux portes d'Israël. Je pense pas que ça change tellement la question, la donne. Mais ça n'est pas si surprenant que ça. Le fait est qu'aujourd'hui, l'ambiguïté est levée. Et ça, c'est intéressant. Parce que son discours a provoqué quelque chose de très intéressant du côté palestinien. Les Palestiniens, donc on ne parle pas des Arabes israéliens, mais des Palestiniens qui jusque-là regardaient les élections israéliennes de loin, sans intervenir, ils n'ont pas vocation à s'immiscer dans ces affaires, eh bien, après ce discours, on fait des déclarations en disant, mais voilà, le Netanyahou que l'on connaît, nous savions qu'il était défavorable à la création d'un État palestinien, et donc ça n'est pas un partenaire pour la paix. Donc les Palestiniens vont se tourner plus que jamais vers l'ONU, vers la Cour pénale internationale, et les échéances arrivent très vite. Dans 15 jours, il y a l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à la Cour pénale internationale, le 1er avril. Et normalement, c'est aussi dans ces zones-là que devraient se terminer les négociations sur le nucléaire iranien. Donc, les échéances sur les questions internationales arrivent très vite. Alors certes, l'accord n'est peut-être pas pour demain sur le nucléaire iranien. En tout cas, on baignera dès demain dans une atmosphère à nouveau de questions de sécurité. L'Iran sera à nouveau au cœur des débats. Et peut-être Netanyahou va poursuivre, comme il l'a fait jusqu'à présent, pour ne pas régler les questions internes.
Oui, oui. Il serait intéressant de voir qui sera désigné au poste de ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs.
Alors, j'aimerais bien que ça ait une importance. Malheureusement, je crois que le ministère des Affaires étrangères pèse peu, finalement. Qui était au poste de ministre des Affaires étrangères jusqu'à présent? C'était Lieberman. Lieberman détestait de la communauté internationale, qu'on osait à peine sortir et présenter à Paris. À Paris, les gens les responsables n'ont pas voulu le rencontrer. Bon, c'est bien la preuve, quoi, que Lieberman était à ce poste. C'est la preuve que le poste de ministre des Affaires étrangères, en soi, n'est pas important. La décision est prise par Netanyahou lui-même. Elle est prise par les Israéliens en poste à Washington. Netanyahou peut compter sur Ron Dermer, qui est ambassadeur depuis 2013 seulement, mais qui est un très proche des Républicains et qui fait figure quelquefois de vice-premier ministre. Donc c'est Netanyahou qui décidera et son très proche entourage.
Frédéric Chilo, merci beaucoup pour votre analyse.
Merci à vous.